Nous allons étudier ce matin Exode 6, mais avant de commencer, je vous propose un petit résumé des épisodes précédents. Le peuple d'Israël est en Égypte, depuis déjà un certain temps. Toute la génération de Joseph est passée. Et le Pharaon décide de s'acharner contre les Israélites qui deviennent les esclaves de la nation. C'est le peuple d'Israël qui est en charge de toutes les tâches les plus pénibles. Mais où est le Dieu de nos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Existait-il vraiment? Est-il impuissant ou nous a-t-il juste oublié? Mais Dieu a un plan. Et dans Exode 3, il appelle Moïse au milieu du désert. Il lui révèle qu'il va faire sortir le peuple d'Égypte pour l'emmener au pays de Canaan, le pays promis. Alors accompagné de son frère Aaron, il retourne en Égypte pour accomplir sa mission. Il se présente devant le Pharaon et lui demande de laisser partir son peuple. Et imaginez juste un instant, Moïse, qui était il y a juste quelques temps tranquille avec ses moutons dans le désert et qui se retrouve maintenant face à un des hommes les plus puissants au monde, le Pharaon, pour lui demander de laisser partir gratuitement toute sa main-d'œuvre pas chère. Le pharaon lui répond un gentil « parle à ma main », traite les Israélites de fainéants et décide d'alourdir encore plus le travail du peuple à une cadence telle qu'ils ne peuvent plus y arriver. Alors, résultat des courses, un mouvement gréviste national mené par la CGT et Force ouvrière commence et le peuple exténué va voir le pharaon. Il leur dit, le pharaon, lui, leur dit que c'est la faute de Moïse. Alors les syndiqués vont voir Moïse pour l'accuser. Et Moïse, à son tour, va voir l'Éternel et l'accuse. Et nous allons commencer la lecture dans Exode 5, verset 22. Exode 5, verset 22. Alors, Moïse se tourna vers l'Éternel et pria. « Ô Seigneur, pourquoi fais-tu tant de mal à ce peuple ? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ici ? Depuis que je suis venu trouver le Pharaon pour lui parler en ton nom, il a maltraité ce peuple. Et toi, tu n'as rien fait pour le délivrer. » L'Éternel dit à Moïse, « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Sous l'emprise d'une main puissante, non seulement il laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. » Puis Dieu ajouta, « Je suis Yahweh. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu par eux sous mon nom, Yahweh. Je me suis engagé par mon alliance avec eux à leur donner le pays de Canaan, ce pays où ils étaient étrangers et où ils ont mené une vie errante. De plus, j'ai entendu les gémissements des Israélites réduits à l'esclavage par les Égyptiens et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis-leur, de ma part, je suis Yahweh. Je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent et je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des corvées que les Égyptiens vous imposent. Puis, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai pour qu'il vous appartienne, moi, Yahweh. » Moïse répéta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutèrent pas, parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. Quand Moïse crie à l'Éternel et lui demande « Pourquoi ?», Dieu répond avec un « qui ». Un « qui répond au « pourquoi ». Alors, pourquoi ? Je pense qu'on s'est tous déjà au moins une fois demandé d'où vient notre prénom. Pourquoi est-ce que je m'appelle Emmanuel ? Pourquoi est-ce que mes parents ont décidé de m'appeler Emmanuel. Pourquoi est-ce que tu t'appelles Philippe? Pourquoi est-ce que tu t'appelles Frédéric? Est-ce qu'il y a un lien entre qui tu es, ton histoire et ton prénom? Mon père s'appelle Philippe aussi. Et ce qui veut dire en grec, l'ami des chevaux. Et donc, j'ai fait le test cette semaine. Je suis allé voir mon père et je lui ai demandé, « Papa, est-ce que tu aimes les chevaux ?» Il m'a répondu qu'il les détestait, sauf dans son assiette. Étrange. Je m'appelle Emmanuel, ce qui veut dire en hébreu « Dieu est avec nous ». Mais mes parents ne sont pas franchement chrétiens ni juifs. Ils trouvaient juste le prénom joli. Et c'est tout. Par contre, dans certaines cultures, le prénom a une vraie signification et reflète souvent l'histoire ou l'identité de la personne. Pour les Hébreux de l'époque, les Hébreux de notre texte, les prénoms avaient un vrai sens. C'était comme une porte d'entrée reflétant qui je suis. Et on peut se souvenir du passage où Dieu change le prénom d'Abraham en Abraham, de Sarah en Sarai, pour montrer que la personne a évolué, qu'elle n'est plus la même. Et c'est un peu comme pour les prénoms des super-héros, pour ceux qui aiment les comics ou les Marvel. On a Superman, parce qu'il est super fort. On a Batman, parce qu'il ressemble à une chauve-souris. On a Ant-Man, parce qu'il est aussi petit qu'une fourmi. On a Captain America, pour des raisons évidentes, etc. etc. Le nom en tant que tel est lié à la personne, à qui il est, à ses caractéristiques, à sa nature. Alors, quand Dieu nous donne son nom dans le passage que nous venons de lire, Yahweh, il nous laisse comprendre un peu plus qui il est. Il se révèle d'une manière nouvelle, plus profonde. Il nous laisse accéder à une partie de son identité. Quand Dieu nous donne son nom, c'est comme s'il nous ajoutait comme ami sur Facebook pour que nous puissions voir son profil. Il nous invite à sa rencontre. Et ce n'est pas la première fois que le nom Yahweh est employé dans la Bible. On le retrouve aussi avant dans Genèse, dans Exode, mais il est particulièrement expliqué dans Exode 3 et réappuyé à nouveau dans le passage que nous venons de lire dans Exode 6. Dieu dit au verset 3, « Mais je n'ai pas été connu par eux sous mon nom Yahweh. » En se différenciant à ce moment-là du nom El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Dieu nous donne son nom. Et c'est une manière pour lui de se révéler à nous un peu plus, de nous montrer qui il est, de développer notre théologie. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu au travail un gars que vous croisez quasi tous les jours dans le couloir, et vous vous saluez peut-être régulièrement, vous demandez « Ah, salut, ça va ?»«
Ça va, ça va. »
Et après quelques années, en fait, vous réfléchissez et puis en fait, vous ne connaissez même pas son prénom. Ce gars, c'est juste le gars du couloir. Et puis un jour, peut-être, un de vos collègues vous donne son nom ou vous arrivez peut-être à le lire sur son badge. Et en fait, il s'appelle Franck. Le gars du couloir s'appelle Franck. En un instant, votre relation avec cet homme inconnu a changé. Vous connaissez son nom. Et nous avons la chance d'avoir un Dieu qui nous donne son nom, qui se révèle, qui souhaite établir une relation avec nous, qui souhaite se faire connaître. « Je suis Yahweh », dit-il. Alors vous allez me dire, « Yahweh, 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 ça ne me dit pas grand-chose à moi, ce n'est pas comme Philippe. » Et c'est vrai que ce n'est pas le nom le plus facile à comprendre. En fait, si je voulais être précis, je devrais prononcer, je me suis entraîné toute la semaine, « Parce qu'en fait, dans le texte hébraïque, on n'a pas les voyelles qui sont associées à ces quatre consonnes qui représentent en français Y, H, W, H. Alors vous pouvez vous entraîner cette semaine à prononcer ça. Mais c'est un nom très énigmatique. Et par respect pour le nom de Dieu, rapidement les Juifs refusèrent même de le prononcer à haute voix. Et quand ils lisaient ces quatre lettres, ils lisaient à la place Adonai, qui veut dire « mon Seigneur ». Alors, que veut bien vouloir dire ces quatre lettres ? Il y a beaucoup de débats sur la question, et la diversité de nos Bibles le reflète bien. Certains ont traduit Yahweh par « Seigneur », pour suivre la lecture traditionnelle juive de Adonai. D'autres traduisent par « Je suis » ou encore « l'Éternel » pour montrer la proximité entre le verbe « être » en hébreu et les quatre lettres qu'on retrouve comme un parallèle dans Exode 3. Et cela voudrait dire littéralement « Je suis qui je suis » ou « Je serai qui je serai ». D'autres théologiens pensent que on devrait rechercher un sens théologique plutôt que linguistique ou étymologique. Car Yahweh, finalement, n'est-ce pas comme le nom de Jésus dans le Nouveau Testament, comprenant Dieu dans sa révélation spéciale tout au long de l'histoire, tout ce que Dieu a fait et tout ce qu'il est avec cette même richesse de sens? Car connaître le nom de Dieu, c'est connaître quelque chose de sa nature. De plus, dans ce passage que nous venons de lire, nous avons l'impression que Dieu fait plus que juste donner son nom. Mais il souhaite lui donner une couleur. Il souhaite le rendre vivant. Il souhaite le rendre palpable à travers ce qu'il annonce, à travers ce qu'il va faire. « Je vais délivrer mon peuple de l'esclavage. Je suis Yahweh. » Yahweh, c'est celui qui s'est engagé volontairement par une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Yahweh, c'est celui qui libérera de l'esclavage son peuple. Yahweh, c'est celui qui fera entrer Israël dans le pays promis. Dieu se révèle ainsi en nous donnant son nom, mais aussi en nous permettant d'éprouver, en nous permettant d'expérimenter ce que ce nom signifie. Dieu se révèle à nous, à travers sa parole, il nous laisse connaître son nom. Et la question est, le laisserons-nous agir dans nos vies pour pleinement comprendre ce que ce nom signifie? Car le texte nous présente une réaction assez intéressante. Quand Dieu parle à son peuple, quand Dieu donne son nom, quand Dieu lui révèle une part de sa personne, le peuple, lui, ne l'écoute pas. Au verset 9, on peut lire « C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas Moïse. » Alors, pourquoi le peuple est resté sourd? Pourquoi sommes-nous si souvent sourds devant ce que Dieu nous dit? La suite du verset 9 nous explique que le peuple n'a pas écouté à cause de leur impatience sous ce dur esclavage. Littéralement, on pourrait traduire à cause de leur petitesse d'esprit et le dur labeur. Parce que face aux difficultés, il nous arrive si souvent de ne voir plus que nos malheurs, de se figer, de se morfondre. C'est comme si on se transformait d'un coup en cheval de trait avec nos deux casse-yeux qui nous bloquent. Et en fait, on ne voit plus qu'une seule chose. On ne voit plus que cette pierre qui est devant nous, sur le chemin, qui nous bloque. Et on se dit, il y a cette pierre et cette pierre, je ne vais jamais passer. Qu'est-ce que je fais? Et on est tellement pétrifié qu'on oublie que celui qui conduit, le cocher, c'est l'Éternel. C'est Yahweh. Oui, il nous arrive si souvent d'être impatients et pétrifiés face à nos difficultés. Si souvent, nous avons juste besoin d'entendre « Je suis Yahweh. Je suis Yahweh. Je suis ton Dieu. Et je sais ce qu'il y a de meilleur pour toi. Je t'ai entendu dans ta détresse. Et j'ai un plan pour toi. Je suis Yahweh. » Alors oui, peut-être que comme Moïse, obéir à Dieu empirera les choses, nous mettra dans des situations compliquées, mais nous pouvons nous appuyer sur qui il est pour répondre à notre pourquoi. Et en écoutant la présidence, je pense que c'est bien vrai pour le peuple de Syrie en ce moment. J'ai une question pour vous. Que diriez-vous si quelqu'un vous proposait de venir avec lui pour faire Paris-New York à la voile? Pourquoi pas? Augmentons un petit peu la difficulté. Et si vous ne savez rien de cette personne, si vous ne savez même pas ses compétences en voile, est-ce que vous accepteriez? Et si maintenant, vous saviez que cette personne qui vous propose de partir avec lui est en fait un skipper professionnel qui a gagné plusieurs fois des grandes courses internationales de voile? Vous partez? Et si son nom, disons, pour ceux qui connaissent un peu, c'est Michel Desjoyeaux ou Hélène MacArthur. Vous partez? On n'a pas des gens avides de risques dans cette salle. De même, le nom de l'Éternel, qui il est, nous aide à faire sa volonté, à lui faire confiance, même quand c'est terriblement difficile, même quand on ne comprend pas. Le qui répond au pourquoi. Le nom de l'Éternel, Yahweh, est ce qu'il signifie, est comme notre bouée de sauvetage sur lequel nous pouvons nous accrocher de toutes nos forces. Le qui répond au pourquoi. Mais il y a aussi un aspect expérimental dans le texte, car on découvre aussi qui il est à travers ce qu'il fait dans l'histoire, à travers ce qu'il fait dans nos vies. L'Éternel dit à Moïse au verset 1, « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire. » Et c'est après la délivrance que vous saurez que je suis Yahweh, votre Dieu, au verset 7. Nous avons aussi à expérimenter qui est Dieu, à le laisser apporter de la consistance à son nom, à travers nos vies, à travers nos difficultés. Nous pouvons laisser Dieu agir pour connaître et pour reconnaître son nom. Un dernier point sur lequel j'aimerais m'arrêter, en réfléchissant, ce peuple hébreu, sommes-nous si différents? Quand on y pense, le peuple juif a été délivré de l'esclavage d'Égypte à travers Moïse. Mais nous avons été délivrés de l'esclavage du péché par Jésus. Dieu emmène son peuple dans le pays promis, mais nous aussi, il nous emmène dans le pays promis. Le pays de Canaan où coule le lait et le miel, où il n'y aura plus de pleurs ni de larmes. Nous aussi, nous sommes son peuple et il est notre Dieu. Et nous aussi, nous vivons dans des temps de difficultés, des temps de détresse, des temps de persécution parfois. Mais nous aussi, nous pouvons tenir bon en nous rappelant que Dieu a dit « Je suis Yahweh ». Le mot « Yahweh » ou selon la traduction supposée « Je suis qui je suis », Jésus n'y fait-il pas allusion dans Jean 8, verset 28, où il déclare « Vous saurez que je suis ». Dans Apocalypse, on parle de celui qui était, qui est et qui vient. Les quatre lettres YHWH ont été traduites dans l'Ancien Testament par Kurios en grec qui veut dire Seigneur. Et on voit bien le lien qui est entre Jésus qu'on appelle Seigneur et le mot Yahweh de l'Ancien Testament. Ça va pas s'écrouler. Le nom de Dieu, comme il est énoncé dans la parole, est à la fois un nom glorieux, un nom plein de majesté, et aussi un nom gracieux, un nom plein de miséricorde. Yahweh est le Dieu qui fera tout ce qu'il faudra pour délivrer son peuple de l'esclavage, même donner son propre fils en sacrifice pour mourir à notre place. Nous ne sommes pas si différents, finalement, de ce peuple juif. Pour conclure, nous avons vu qu'en réponse au pourquoi de Moïse, Dieu a répondu « Je suis Yahweh ». Car nous pouvons trouver dans le nom de Dieu plein de sens, plein de réponses, et nous pouvons nous baser sur qui est notre Dieu pour tenir dans les difficultés. Que ces quatre lettres résonnent dans notre cœur cette semaine, que nous puissions le laisser agir pour qu'il nous démontre tout ce que « Je suis Yahweh » signifie. Amen.